RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les Juju, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, l'avocat Charles Consigny, Flora Guebali, l'entrepreneur dans la transition écologique et l'éditeur de bande dessinée Mourad Boudjelal. On terminera tout à l'heure à midi moins 20 avec le scandale autour de l'émission Appel à témoins. Vous savez, l'émission d'M6 qui voulait en faire autour de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Elle voulait faire progresser l'enquête avec peut-être des nouveaux témoins, sauf qu'ils se sont fait avoir.
Ah bah si, avec des nouveaux témoins.
Avec un faux prêtre qu'ils ont pris comme ça en direct, qui est venu témoigner en disant qu'il a vu Xavier Dupont de Ligonnès dans sa congrégation, qu'il l'avait même confessé. Puis après, le gars a dit non, mais après, en temps, il a dit non, Xavier Dupont de Ligonnès, c'est moi. Bravo les gars. On en parlera tout à l'heure à midi moins 20. Est-ce que c'est la honte pour Julien Courbet et son équipe? En attendant, on va accueillir notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Raphaël Glucksmann, cofondateur de Place Publique, auteur du livre « Nous avons encore envie » aux éditions Alary et presque candidat à l'élection présidentielle. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, c'est votre première dans les grandes gueules.
Un total bizutage.
On reproche souvent à la gauche d'être dans le déni sur les questions sécuritaires. Est-ce que vous trouvez que la justice est assez sévère avec les casseurs de samedi soir dernier ?
La première des choses, c'est de dire qu'on n'en peut plus, en fait, de plus pouvoir faire la fête sans qu'il y ait des casseurs qui viennent détruire, piller, et qu'il y a une responsabilité de chacun d'entre eux et qu'il faut qu'ils payent. Et je ne crois pas, moi, que ma gauche soit dans le déni vis-à-vis de la sécurité. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle longuement. Je pense que la sécurité, c'est d'abord les quartiers populaires qui en sont victimes de l'insécurité, des délinquants, des dealers qui squattent en bas des immeubles, qui perturbent la vie des citoyennes et des citoyens, et que donc on doit avoir une réponse ultra ferme sur la sécurité. Par contre, ce que je dis, c'est que nous, on a une réponse crédible sur la sécurité, contrairement à la droite, ça va vous surprendre. Mais je suis convaincu de ça, parce que la sécurité, c'est la sanction, et on assume la sanction. Mais c'est pas que la sanction. C'est aussi la présence continue des services publics. C'est aussi la présence continue de la République dans tous les quartiers de France. Et par exemple, quand la droite, elle supprime la police de proximité, ben c'est idéologique.
Mais par exemple, prenons une mesure concrète que Sébastien Lecornu a annoncé cette semaine. Alors pour l'instant, on ne sait pas précisément comment ça va se mettre en place, mais il voudrait qu'une partie des allocations familiales ou des aides sociales touchées par le jeune ou le moins jeune qui a cassé servent à rembourser. Ça serait une bonne idée ?
Le principe du casseur-payeur, moi je suis pour. Par contre, je suis pour l'individualisation des peines. C'est-à-dire qu'on va pas punir les familles pour les forfaits, les délits d'un individu. En fait, on est tous responsables. On est tous responsables de ses actions. Et si vous avez une famille avec une mère seule qui élève 4 enfants et il y en a un qui va casser, vous allez faire quoi ? Supprimer les allocs pour les 3 autres enfants ? Vraiment. Enfin, il y a un principe dans notre droit. Il faut s'y tenir. C'est l'individualisation des peines. Moi, je suis pour que ceux qui commettent des forfaits,
oui, c'est à cause de moi que tout le monde est pénalisé. Qu'on est responsable civilement des dommages causés par son enfant mineur. Oui. Donc, à la limite, si vous... Normalement, un enfant mineur qui serait condamné à verser, par exemple, une certaine somme d'argent, c'est aux parents de s'en acquitter. Ce serait juste une manière de prélever la source ce paiement. Je suis sûr que vous n'êtes pas contre le prélèvement.
En cas de décès, on peut être responsable des dettes de ses parents.
De ses parents.
Mais ça peut arriver. Donc, il n'y a pas d'individualisation, toujours.
Déjà, la majorité de ceux qui ont été arrêtés après les casses, ce n'étaient pas des mineurs. C'était des majeurs. Donc le principe du casseur-payeur, moi je suis pour. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, je ferai très attention parce que c'est extrêmement douloureux socialement. Vous êtes une mère seule, vous vivez sans aide, vous faites ce que vous pouvez pour élever vos enfants. Eh bien quoi, on va vous supprimer ensuite toutes les allocs parce que vous avez un de vos enfants qui a commis un délit, qui a commis un crime. Je ne crois pas que socialement ce soit la réponse. Mais je ne pense pas qu'on soit dans le déni du tout. Je ne pense pas qu'on soit dans le déni du tout.
Donc votre gauche, c'est plus de sécurité ?
C'est plus de sécurité et c'est une réponse aux fractures françaises qui expliquent les tensions qui minent notre société. Moi, ce qui m'obsède, c'est qu'en fait, on ne fait plus peuple. On n'arrive plus à former un peuple. On est traversé par des violences, par des tensions, par des replis identitaires, par des par une sorte d'archipélisation de notre société. Et moi, tout ce que je propose, c'est un nouveau contrat patriotique pour qu'on refasse peuple à nouveau. Par exemple, le service civique obligatoire. On se plaint aujourd'hui du fait que l'école n'arrive plus à fabriquer des citoyens français. Eh ben, le problème, c'est qu'il n'y avait pas que l'école avant. Il y avait aussi le service militaire. Il y avait des institutions collectives qui fabriquaient de la France. En fait. Eh bien, on l'a supprimé, le service militaire, et on s'est jamais demandé par quoi on le remplaçait. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un service civique de 10 mois où chaque Français.
Mathieu Pigasse, qui était ici même dans les grandes gueules, avait dit, vous êtes de droite. Bon, c'est une boutade, mais il avait raison.
Mais absolument pas. Il n'y a rien de plus à gauche que de vouloir faire peuple. Il n'y a rien de plus à gauche que de dire que tous les enfants français doivent se croiser dans leur vie, qu'on fait pas une république quand un môme qui naît à Trappes, un môme qui naît dans le 7e arrondissement de Paris et un môme qui naît en Picardie, eh bien ne se croisent jamais dans leur existence. Ils ont rien en commun.
Service militaire plutôt qu'un service.
Parce que l'armée n'en veut pas, voyez-vous. Moi j'ai travaillé, ceux qui sont le plus hostiles à un rétablissement du service militaire, c'est les militaires. Ils disent qu'ils ont pas les moyens de les accueillir et donc il y aura une dimension militaire volontaire, mais chaque enfant français, garçon, fille, peu importe d'où il vient et quel est son quartier de naissance, devra donner de son temps et de son énergie à la collectivité. Ça le sortira de son environnement immédiat. Ça permettra aux Français de se croiser. Alors, et qu'on soit plus enfermé dans les bulles qui sont les nôtres aujourd'hui.
On a beaucoup parlé des impôts tout à l'heure. Quand un social-démocrate arrive au pouvoir, il augmente les impôts. Est-ce que si vous arrivez au pouvoir, il y aura encore une augmentation des impôts?
Mais il n'y aura pas une augmentation générale des impôts. Par contre, que les ultra riches.
C'est pas 3 ans que tu vas attendre finalement.
C'est avant de partir. On est dans une situation aujourd'hui où on a besoin de faire un effort collectif. Que ceux qui ont le plus participent le plus à cet effort, c'est la base même d'un contrat social.
Déjà 75% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des plus aisés en France.
Et vous savez quoi? En France, on est dans une situation où les classes moyennes supérieures et les riches payent beaucoup d'impôts par rapport à nos voisins européens. Mais par contre, les ultra-riches, ceux qui ont le moyen de pas avoir d'impôts sur le revenu parce qu'en fait, ils se payent en dividendes uniquement, eh bien, eux, ils payent moins d'impôts que les riches et les classes moyennes supérieures.
La taxe Zuckman?
Eh bien, on va étudier. On a compris qu'il y avait des problèmes, par exemple, pour les entreprises de la tech qui ont une capitalisation et qui peuvent pas sortir le cash. Donc, mais par contre, l'ambition de cette taxe, oui, c'est insupportable. Insupportable. Et pour les plus grands patrimoines, c'est-à-dire 0,1% des Français. De la même manière, nous, on va poser sur la table la question de l'héritage, mais ça ne concernera pas les Françaises et les Français qui héritent d'un appartement familial ou qui héritent d'un petit pavillon. Ça concernera les méga héritages. Parce que je ne veux pas que la France devienne une société de rentiers et d'héritiers. Je veux qu'on remette les travailleurs au cœur du contrat social. Qu'on soit à nouveau une société de travailleurs. Donc, il va falloir revoir la fiscalité. Moins d'impôts sur le travail, plus sur l'héritage ou sur la rente.
Non, mais l'héritage, attention, il y a héritage et héritage.
Entièrement d'accord.
Il y a héritage qui s'est construit pendant une vie, qu'on donne à ses enfants, et on sait que les enfants vont hériter, mais qu'ils ont perdu la vie de leurs parents, parce que l'héritage se construit sur une vie, et il y a un héritage qui s'est construit sur des centaines d'années.
Ça s'appelle du privilège.
Voilà. Et là, c'est différent. On peut pas considérer les deux de la même façon.
Eh ben, je suis entièrement d'accord.
Si tu hérites de ton arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est pas pareil que si tu hérites de tes parents, ou souvent, malheureusement, comme ils ont sacrifié leur vie pour toi.
Eh ben, on peut pas
le taxer de la même façon.
Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et qu'on est dans une situation où, en fait, quand on dit l'héritage, eh bien, il y a une majorité de Français qui hérite d'une vie de labeur. Et ça doit échapper à ça. Par contre, ces transmissions de privilèges qui ossifient les inégalités, vous savez, aujourd'hui, honnêtement, il y a 40 ans, à la fin de votre vie, les 2/3 de votre fortune, c'était le produit de votre travail. Aujourd'hui, c'est l'inverse. À la fin de votre vie, les 2/3 de votre fortune, c'est le produit de l'héritage. Ça veut dire qu'il y a une ossification des inégalités. Et moi, c'est contre ça que je veux me battre.
Parce que le travail paye plus.
Exactement, parce que le travail ne paye plus assez.
Oui,
Mais
il y a une grande partie qui est prise en charge.
Mais oui, mais justement, si le travail ne paye plus, qu'est-ce que vous faites pour que le travail paye?
Alors,
comme économie d'échelle pour la France, pour réduire le train de vie de l'État, et qu'est-ce que vous faites pour approcher le bruit du net?
Alors, la première des choses à faire, c'est une nouvelle répartition, parce que tout le monde veut rapprocher le bruit du net. Le problème, c'est que personne n'explique comment on finance. Et si vous faites ça, eh bien, il va falloir faire une nouvelle répartition. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la rente, le capital, l'héritage, ben, sont moins taxés que le travail.
Vous taxez d'un côté pour pouvoir réduire.
Libérer de l'autre.
D'accord.
Et par ailleurs.
Il y a une grande gueule qui dit
ça. Ouais. Allez-y.
Ah, bah voilà. Bah,
oui, mais je ne savais pas. Que c'est son cheval de bataille,
t'as Mourad. Trouvé ton équipe.
Mais non,
voilà,
vous avez votre ministre de l'économie si vous êtes élu.
Aujourd'hui, tout le monde dit. Oh là là, tout le monde dit aujourd'hui, nos démocraties sont balayées par le vent du populisme. C'est ça le thème central. Tout le monde dit la même chose. Et c'est vrai partout dans toutes les démocraties occidentales. Ouais. Mais alors, on ne s'interroge jamais sur les causes profondes de ça. Pourquoi ces démocraties qui étaient très stables, tout d'un coup, deviennent très friables? Moi, je vais vous le dire. C'est qu'en fait, les démocraties occidentales, elles ont eu 40 ans de stabilité et de progrès grâce à une promesse qui était faite aux classes moyennes et aux classes populaires, qui était d'améliorer leurs conditions de vie par le travail.
Tout à fait. Et que leurs enfants aient une meilleure condition.
Et à partir du moment où cette promesse n'est plus tenue, eh bien, la démocratie s'effrite. Et aujourd'hui, vous avez les mouvements populistes. Vous voulez barrer la route au Rassemblement National, regardez une carte électorale. Regardez une carte électorale.
Bien sûr.
Plus vous êtes loin d'une gare, plus vous votez RN, et regardez aussi une carte électorale en matière démographique. Les jeunes actifs, aujourd'hui, votent majoritairement pour Jordan Bardella, alors que les retraités votent majoritairement pour le centre-gauche et le centre-droit. Ça doit nous interpeller, si ça ne nous questionne pas, ça, eh bien, de toute façon, on va finir par perdre. Appeler au barrage ne suffira pas.
Charles a consigné.
Alors, j'ai lu en grande partie cet excellent livre... écrit, je pense, par un jeune normalien aidé de ChatGPT.
Non, vous savez quoi? Alors là, vous pouvez me reconnaître un truc, c'est que je suis sans doute l'un des seuls politiques qui écrit ses livres lui-même.
Il
j'ai commencé d'ailleurs ma vie en écrivant des livres.
Pour les autres.
On me l'a assez reproché.
Je sais qu'on manque quand même de temps quand on fait une campagne. Manifestement.
Vous avez manqué de temps pour le lire.
Non, c'est pas ça. C'est que, je suis pas certain si vous voulez. Bon, ça m'a fait un peu.
Lia n'arrive pas encore à lire à votre place.
Tant mieux si vous écrivez aussi bien que quelqu'un qui l'aurait fait à temps plein. Mais j'ai trouvé ça un peu de ChatGPT. Je trouve ça intéressant. Je trouve que votre personnage est intéressant parce que vous êtes, et je le dis sans agressivité, et je le dis avec bienveillance, mais je pense quand même profondément que vous êtes, en tout cas à l'heure actuelle...
Le début, c'est un enchaînement terrible.
Je pense
que
vous êtes vraiment le contraire de ce dont notre pays a besoin. C'est-à-dire, vous êtes... Mais sur le fond, je ne parle pas de votre personnalité, etc. Vous êtes quelqu'un de sympathique, d'agréable. Manifestement, vous êtes quand même assez sincère dans ce que vous dites. Vous incarnez plutôt bien votre gauche, qui est la gauche bobo. J'ai dit une fois ici que vous sembliez penser que ce qui est bon pour le canal Saint-Martin est bon pour la France. Je le maintiens. Vous mettez maintenant une cravate pour faire plus président, etc. Mais fondamentalement, c'est quand même ça. Et moi, ce que je pense profondément, c'est que on est déjà gouverné par vous depuis 30 ans à peu près. Ça fait 30 ans que les bobos ont le pouvoir.
Vous avez des hallucinations, vous m'avez vu au pouvoir depuis 30 ans.
Ça fait 30 ans que les bobos tiennent les médias en France. Ça fait 30 ans qu'ils peuplent les grandes écoles. Ça fait 30 ans qu'ils envoient leurs représentants diriger des ministères. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans les cabinets de ces ministères. Ça fait 30 ans qu'on applique leurs idées. Et quel est le résultat de ces belles idées, de ces belles âmes, etc. C'est quand même un système qui aujourd'hui s'écroule sur lui-même. Puisque à la fin des fins, j'ai bien lu... Vous ne tirez pas les... Vous faites certains constats qu'on peut partager sur la désindustrialisation, sur un certain nombre de choses, mais en même temps, vous n'en tirez aucune conséquence, puisque pour sauver ce système, je veux dire, si vous étiez vraiment à gauche, et si vous vouliez vraiment sauver le système français, vous défendriez la retraite à 70 ans, vous défendriez la suppression d'un million de fonctionnaires, d'un million de postes de fonctionnaires, tout ce qui pourrait permettre à peu près au système français tel qu'il est aujourd'hui.
Si j'étais vraiment de gauche, je serais de droite.
Mais ça n'est pas
votre conclusion au bout de
l'intelligence. Ce que dit Charles, c'est est-ce que finalement vous ne ressemblez pas à ceux qui sont déjà au pouvoir?
Depuis 15 ans,
François Hollande et Emmanuel Macron.
Ce que je remarque, c'est que vous n'avez pas vraiment lu le livre, mais c'est pas grave, vous n'avez pas le temps. Parce que c'est
des gros morceaux.
Et voilà, donc vous avez
j'ai
pas
un morceau
lu
très drôle sur la SNCF que j'aimerais lire après.
Voilà, donc vous sur mon amour de la SNCF enfant.
Sur votre côté citoyen soviétique. je vais le lire.
Mais alors laissez-moi vous répondre d'abord, parce que la vérité c'est que c'est une enfilade de clichés ce que vous nous sortez, qui prouve que vous n'avez pas lu le livre, mais c'est pas grave. Parce que justement, je m'oppose à tout. cette tendance de l'éternelle répétition du même, d'un pays dont les élites ont failli. Et moi, quand j'ai commencé à mes études à Sciences Po, la première des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, cette classe sociale, ma classe, endogame, eh bien, allait droit dans le mur. Parce qu'elle avait renoncé à tout ce qui permettait de faire la grandeur de la France. L'abandon des usines, ça date des années 80-90. Et l'ensemble des élites françaises, économiques et politiques, eh bien, ont décidé qu'on pouvait faire un pays sans usines. La vérité, c'est que ça a créé à la fois la fracture sociale, la destruction des territoires, la perte de souveraineté et la dette. Puisque aujourd'hui, on subventionne la consommation de produits étrangers au lieu d'avoir des industries qui produisent de la richesse. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'en fait, on a pensé que la France était une nation qui pouvait exister sans qu'on la construise. Eh bien, moi, je pense que ça, c'est l'erreur fondamentale de ces élites qui se sont endormies. Et que donc, il faut reconstruire le pays. Et ça, c'est pas pour le Canal Saint-Martin. Vous habitez Canal Saint-Martin, honnêtement, est-ce que vous avez besoin d'appartenir à un peuple et à une nation, beaucoup moins que si vous habitez dans un quartier politique de la ville ou que si vous habitez dans une sous-préfecture qui perd ses services publics. Donc moi, ce que je veux justement, c'est qu'on refasse nation ensemble. Oui, t'as rien de bobo cette histoire. Mais j'en tire toutes les conséquences. Si... Le seul problème, monsieur Consigny, c'est que mes conséquences ne sont pas les vôtres. Vous aimeriez qu'à partir de mes diagnostics, j'explique qu'il faut être encore plus libéral, qu'il faut tout ouvrir, qu'il faut tout casser dans les services publics. Eh bien, moi, je ne veux pas de ça. Moi, ce que je veux, c'est sauver l'école publique. Ce que je veux, c'est des services publics qui soient efficaces. Ce que je veux, moi, c'est qu'on puisse, en France... Pardon ?
Vous voulez pas les réformer, mais les services publics? Vous êtes pour les 35 heures? Vous voulez pas réduire le nombre de fonctionnaires?
Je ne dis que ça.
Vous voulez pas désengager l'État de missions dans lesquelles il n'est plus utile du tout?
Ce que je veux, c'est un État qui retourne à ce qu'il était avant, c'est-à-dire un État stratège. Juste une question. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème aujourd'hui, c'est le prix à la pompe. D'accord? Ça, tout le monde en voit la conséquence. Eh bien, en 73, on a eu une crise pétrolière. D'accord? Les pays membres de l'OPEP ont décidé d'augmenter le prix du baril. À cette époque-là, on avait un État stratège. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé que la souveraineté énergétique de la France méritait un grand plan. Là, ça s'appelle le plan Messmer. C'était construire des réacteurs nucléaires. C'était l'industrie nucléaire civile. 55 réacteurs nucléaires construits en 20 ans. Aujourd'hui, c'est la deuxième crise pétro-gazière en 5 ans. Il y en a une en 2021-2022 suite aux décisions de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, une suite aux décisions de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu. Eh bien, en 2021-2022, on a mis 72 milliards de subventions dans les fossiles et on n'a pas du tout préparé la révolution énergétique qui nous permettrait d'être indépendants. Il faut électrifier, il faut des voitures électriques et il faut des transports en commun. Mais ça c'est...
Des petites voitures électriques, un million de R5.
Raphaël Glucksmann. En leasing social, c'est-à-dire que pour 100 euros, vous avez accès à une voiture électrique quand vous touchez moins de 2000 euros par mois et que vous avez plus de 30 bornes à faire par jour pour aller travailler.
Alors, ce seront des BYD, des chinoises.
Non, ce seront des R5. Ouais. On va en faire l'objet culte parce qu'il y aura un bail.
Vous imposez la bagnole.
Il y a une loi. Il y a une loi achetée européenne.
On aura pas de choix. Allez, à tout de suite avec Raphaël Glucksmann.
Et vous économiserez 200 euros par mois.
C'est le retour de la régie Renault au service du peuple.
Eh bien oui, c'est bien la régie Renault.
Allez, ah bah voyez,
bah c'est bien la régie Renault.
Les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
J'ai les grandes gueules avec Raphaël Glucksmann. Il est avec nous, place publique. Nous avons encore envie. Le livre est aux éditions Alary. Olivier, ensuite Flora et Mourad.
Très rapidement, une question un peu popole, entre guillemets, mais Olivier Faure, le leader des socialistes, propose une double primaire, c'est-à-dire une primaire au sein du Parti socialiste et ensuite une primaire un peu plus large qui pourrait englober un François Ruffin ou une Marine Tondelier. Est-ce que vous pourriez participer à ce système?
Mais j'ai pas compris, en fait, si je suis sincère et direct, j'ai toujours pas compris la proposition. Donc là, on va sûrement avoir une réunion et on va en parler. Mais là, en l'état, enfin, moi, j'ai toujours dit que la primaire était une machine à perdre. Si la proposition qui m'est faite, c'est d'en avoir deux au lieu d'une, je vois pas le progrès. Donc
c'est deux machines à perdre pour vous.
Voilà. Par contre, ce que je veux dire, et je sais pas si c'est très populaire en ce moment, mais que moi, ce que je veux, c'est que les militantes et les militants socialistes aient leur mot à dire, et donc qu'il y ait un processus, oui, de désignation qui implique les militantes et les militants. Moi, j'ai fait une campagne aux européennes avec ces militants, et je sais l'importance qu'ils ont. Je sais ce que je leur dois. Je sais pourquoi on a fait 14% grâce à leur motivation, grâce à ce qui est rare aujourd'hui, hein, de se lever le matin pour aller distribuer des tracts ou coller des affiches la nuit. C'est pas dans l'époque individualiste qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai un respect infini pour les militantes et les militants, mais ce processus-là, je l'ai pas compris.
Flora.
Moi, je me bats sur les plateaux télé depuis des années pour qu'on interdise TikTok aux mineurs. J'ai été contente quand le gouvernement de Macron l'a proposé, sauf que en fait, c'est toujours pas effectif. Au même titre que quand ils ont voulu interdire le porno, il suffit de télécharger un VPN, ça prend 10 secondes et parfois c'est gratuit. Vous proposez aussi d'interdire TikTok aux mineurs et de reprendre la main sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous réussiriez là où la Macronie a échoué?
Parce que la Macronie, comme d'habitude, fait des effets d'annonce et ensuite il n'y a pas de politique derrière pour que ce soit effectif. Enfin, c'est ça, des effets d'annonce, effets d'annonce, effets d'annonce. La France, elle a le tournis au bout de 10 ans de cette com permanente. Il y a des lois. Moi, je sais parce que j'ai contribué à les rédiger. Il y a le Digital Services Act à l'échelle européenne pour réguler les grandes plateformes. Aujourd'hui,
loi TikTok, qui n'est pas appliquée.
Voilà, TikTok est en contravention avec ces lois. TikTok fausse les élections en Roumanie, aucune sanction. TikTok ne respecte aucune des règles européennes, aucune sanction. Et donc, il faut juste avoir le courage, eh bien, d'appliquer les règles. Moi, j'aurais ce courage, je n'aurais pas la main qui tremble. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que la France devienne une colonie numérique américaine et chinoise.
C'est déjà le cas.
C'est ce qui est en train d'avoir lieu. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça détruit notre pacte social. Vous parlez avec les enseignantes et les enseignants, première chose que vous dites, on est en compétition avec des algorithmes.
C'est fou ce que vous...
En Chine ou aux États-Unis, sur lesquels nous n'avons aucune prise, des influenceurs viennent remettre en cause notre enseignement et on est abandonné face à ça. Eh bien moi, je n'abandonnerai pas l'école publique, je n'abandonnerai pas la République, je n'abandonnerai pas nos enfants, je n'abandonnerai pas nos familles et je ne plierai pas devant ce nouveau capitalisme international qui est celui du numérique, des grandes plateformes et qui considère nos vies, nos cerveaux comme la nouvelle matière première.
Mourad Boudjelal.
Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez réindustrialiser le pays, c'est un vœu pieux. Mais il y a un petit côté oxymore, c'est qu'à côté de ça, vous êtes un pro-européen.
Oui.
Voilà, donc être pro-européen, ça sous-entend d'abord que le pays n'a plus aucune souveraineté, puisque la souveraineté, non, elle est à Bruxelles. Et la deuxième chose, c'est le libre-échange. Le libre-échange, dans un modèle économique tel qu'il existe aujourd'hui en France, la réindustrialisation est totalement impossible. On a un coût premier qui est largement supérieur à tous les pays qui participent au libre-échange. Donc c'est juste impossible. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est comment vouloir retrouver la République, comment vouloir... Il y a plein de choses auxquelles j'adhère dans votre programme, tout en restant européen. Comment vous faites, puisque vous n'aurez pas le pouvoir. Vous allez être juste un exécutant des ordres de Ursula ou d'un autre, pour diriger le pays France.
On est d'accord sur l'ambition pour la France, mais oui, là où on est en désaccord total, c'est qu'on a besoin de l'Europe pour que cette ambition elle se matérialise. On a besoin de l'Europe pour lutter contre le dumping chinois. Aujourd'hui, c'est à l'échelle européenne... qu'on peut protéger, c'est à l'échelle européenne qu'on peut protéger nos entreprises face au dumping chinois. C'est à l'échelle européenne qu'on peut reprendre la main face aux géants du numérique américains.
En reprenant nos frontières économiques, on nous protège.
Ces frontières économiques, elles doivent être à l'échelle européenne. Sinon, on n'a pas la taille critique.
C'est pas possible.
On n'a pas la taille critique.
Il n'y a pas un modèle social unique en Europe.
Vous avez mentionné les agriculteurs. Moi, je vais vous dire, les agriculteurs, aujourd'hui, ils sont les victimes d'une politique agricole commune profondément inégalitaire. Et qui défend cette politique agricole commune profondément inégalitaire? C'est la France, c'est pas l'Europe.
Oui,
c'est la France. En réalité, on a aujourd'hui 20% des exploitations, les grandes exploitations céréalières qui captent 80% des aides. Et dans le même temps, les petits agriculteurs qui touchent 700 balles par mois pour travailler 70 heures par semaine, ils ne touchent pas d'aide. Pourquoi? Parce que la France refuse qu'il y ait des plafonds aux aides. Parce que la France refuse qu'on change le système de subvention. Donc, moi, je vais vous le dire.
On a sacrifié nos agriculteurs en Europe pour que les Allemands puissent vendre des BMW et des Volkswagen.
Moi, je lutte à l'échelle européenne contre le libre-échange, contre le Mercosur, contre les grands pays de libre-échange.
À l'échelle européenne, vous n'êtes pas majorité, donc vous le subissez.
Et bien, ce qui nous reste.
Donc, comment le faire en restant en Europe?
Est-ce qu'on peut prendre un pari ici, maintenant? D'accord. Prends un pari qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, vous appellerez à voter Jean-Luc Mélenchon. À Jordan Bardella.
On prend un pari.
Ou inversement.
Et je reviens chez vous et vous verrez, c'est vous qui aurez perdu le pari.
Le pari,
c'est que non seulement ce sera la gauche démocratique et républicaine qui sera au deuxième tour, qu'elle battra l'extrême droite et qu'elle gagnera cette élection. Et moi, je ne dévierai pas de cette ligne. J'en suis convaincu. Je suis sûr que les Françaises et les Français ne veulent pas de la continuité du macronisme. Ils ne voteront pas pour un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Ils ne voteront pas pour un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et ils ne voteront pas non plus pour un affrontement entre personnes qui veulent fracturer la société. Ouais. Entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella, ils nous expliquent les deux qu'il n'y a rien. Eh bien, moi, je vous le dis, il y a quelque chose. Il y a même l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la République. Ouais, et nous, nous allons relever le drapeau de la République.
Si vous voulez gagner, il faudra retourner la table.
On va retourner la table et on va offrir un espoir parce que c'est pas juste barrer la route aux extrêmes.
Ça sera vous.
Parce que vous avez dit 3 mois, alors on sent bien que c'est vous.
Oui. Ça sera la meilleure personne, la personne la mieux placée. Et elle retournera la table. Elle aura l'obligation de retourner la table même.
Bah, il a déjà retourné Boudjelal, hein. Il a été tendre comme un agneau.
Ministre de l'économie. Retournez Mourad.
Merci. On parie un déjeuner avec l'équipe des GG.
Voilà. Et vous m'inviterez donc à déjeuner.
Rendez-vous au mois de mai.
Mais un bon déjeuner, pas.
Pourquoi un vrai déjeuner?
J'observe que le président Glucksmann a eu un très bon réflexe, c'est qu'il ne veut pas vous inviter à l'Élysée.
Voilà.
C'est vous qui payez le déjeuner.
Mais on ira chez Mastercard.
J'ai trop de respect pour votre indépendance.
On ira chez Mastercard.
Les journalistes payent leur déjeuner.
Merci de passer par les GG. Le livre Nous avons encore envie aux éditions Alary, à la réédition. Merci. Allez, à tout de suite pour la fin des grands.
Merci à vous.
C'est Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
On était en train de résumer Raphaël Glucksmann avec les GG qu'on a écouté, interrogé justement. Mais c'est vrai qu'il est. C'est vrai que pour les responsables politiques, venir dans les GG, c'est un exercice qui est quand même un petit peu différent par rapport aux courtes interviews de 5 minutes le matin. C'est un peu plus cash quand même ici. Voilà. Donc.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Raphaël Glucksmann, le premier reproche qui lui est fait, c'est d'être un peu hors sol, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il est, député européen, alors il est très au fait des problèmes européens, internationaux, etc. Et beaucoup nous demandent, mais est-ce que les problèmes français concrets, est-ce qu'il peut s'y attaquer? Et là, dans les grandes gueules, on le ramène sur ses problèmes. Donc il a parlé de sécurité, il a parlé. Mmh. Et là, je trouve que finalement, c'est un exercice qui lui va bien parce qu'il est, il est obligé un peu d'y aller.
Il est bon. Ouais, moi, je vais vous dire la vérité. Je suis convaincue que sa ligne politique, lui en tant qu'homme, je ne sais pas, mais sa ligne politique, je suis convaincue qu'elle a un boulevard auprès des Français. Et j'ai trouvé que là, il l'incarnait très bien. On pouvait parfois lui reprocher d'être un peu théorique ou d'être un peu hors sol. Là, il était plus concret que la moyenne
moi,
politique.
Pas trop, ça, sur le fond, je vois pas la différence avec la Macronie. De gauche, mais bon. Je vois pas la différence entre Glucksmann, Clément Beaune,
Gabriel Attal. Ça n'a rien à voir. Gabriel Attal, il est pour le libre-échange, il est pour les traités internationaux, et il veut qu'on vende nos produits dans
Flora,
le monde entier.
Florent, est-ce que l'électeur veut tout ça, mais après, il va pouvoir.
Est-ce que Glucksmann et Attal se ressemblent plus que Bardella et Glucksmann? La réponse est oui, évidemment. Mais est-ce qu'il y a 50% des Français qui vont vouloir un candidat républicain? Plus de 50%.
C'est au deuxième tour.
Oui,
mais avant, il y a un premier tour.
Je le pense aussi. Oui, mais qui est plus séduisant entre quelqu'un qui a été au pouvoir depuis 10 ans ou quelqu'un qui a toujours refusé la Macronie et qui se bat contre Poutine et contre Trump, excusez-moi, des sujets un peu importants en ce moment, depuis 10 ans.
Allez, on va terminer cette émission en parlant de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. C'est dans l'émission Appel à témoins, c'était mardi soir sur M6, l'émission préparée, présentée par Julien Courbet, qui appelait à la mobilisation pour essayer de faire avancer l'enquête sur Xavier Dupont-Ligonnès. Et là, paf, patatras, un type qui intervient en direct, qui prétend être un prêtre et avoir rencontré Xavier Dupont-Ligonnès dans une congrégation, il l'aurait même confessé.
Alors non seulement l'homme qui a appelé l'émission Appel à témoins de Julien Courbet, donc en se faisant passer pour un prêtre, n'est pas prêtre, mais en plus, ensuite, il a affirmé être lui-même Xavier Dupont de Ligonnès. Donc on est quand même face à un sacré loustique. Et là où on est quand même assez interloqué, c'est comment peut-on laisser dans une émission grand public, qui en plus avait... fait l'événement avant même que cette émission soit diffusée, puisqu'on annonçait des révélations, on peut laisser n'importe quel énergumène s'exprimer et dire n'importe quoi. L'Église catholique n'est pas contente et on peut le comprendre. Les téléspectateurs ont été trompés. Alors, Julien Courbet, pour se défendre, nous dit, mais s'il fallait vérifier les témoignages, on ne pourrait pas faire cette émission en direct. Alors, c'est quand même ça le problème. C'est, que oui, bah. C'est donc l'existence même de cette émission qui est un peu en cause.
Qu'est-ce que vous en dites, ces dérapages, Xavier Dupont-Ligonnès, Monsieur Charles?
Non, mais je vous avoue que quand ça a été diffusé, j'ai suivi les extraits sur Twitter et je trouvais ça très intéressant parce que moi, ça m'intrigue beaucoup. D'habitude, je m'intéresse pas aux faits divers et tout ça, mais j'avoue être intrigué par le parcours de Xavier Dupont-Ligonnès et de voilà, je me dis où peut-il bien être. Je ne pense pas qu'il soit en France quand même. Hein. Et donc ça m'intéressait, mais bon voilà, le fiasco est total et complet.
Alors moi je suis
fasciné par l'affaire.
Totalement fasciné, c'est quelque chose que je suis, je suis aux aguets, que j'étudie, et donc j'ai bien sûr regardé, j'ai regardé l'émission en direct, puisqu'ils annonçaient qu'ils avaient trouvé des preuves de vie de Xavier Dupont de Ligonnès, donc j'ai été très très déçu. Alors, moi je crois qu'il y a presque pire que le coup de fil. C'est le mec qui nous montre au bord de la route, c'est pas du tout Xavier Dupont de Ligonnès, quoi. On se fout de nous, ça n'a rien à voir. Il montre une photo d'un mec qui pourrait être, c'est pas lui. J'ai assisté
Il ferme des portes aussi, ouais, hein, c'est
j'ai,
ça.
J'ai assisté à l'appel en direct. J'avoue que moi, j'ai cru parce qu'il y a sur le plateau un ancien policier, un ancien procureur, je crois. Je me dis, il y a quand même des gens qui sont habitués et le fait qu'ils ne réagissent pas, c'est que c'est peut-être vrai. Et puis moi, comme je suis totalement certain que Xavier Dupont de Ligonnès est en vie, pour des raisons assez simples. La première, c'est une fois qu'il s'est buté...
sa femme et ses enfants.
Non, mais une fois, s'il s'est tué, il s'est relevé pour cacher son corps, je crois pas. Et la deuxième chose, c'est que quelqu'un qui sait qu'il va se buter, surtout que c'est dans une région que je connais bien, c'est chez moi. Hein,
parce que la dernière fois qu'il a été aperçu, voilà, Roquebrune sur Argence, dans le Var.
Et je suis même allé à l'hôtel...
Mais non.
Ouais. Ben moi, je suis fasciné par ça.
Ah, t'es sur l'enquête.
Oui. Et quelqu'un qui va.
On a vu Mourad Boudjelal dans Formule 1, ça a surpris.
Je peux te dire que lorsqu'il utilise sa carte, il fait pas attention. C'est-à-dire que tu te fais un dernier dîner comme il l'a fait dans un restaurant. Ben tu vas prendre tu vas te prendre un grand vin. Tu vas pas regarder la dépense. Alors que lui, il a regardé la dépense. Il a gardé son argent. Quelqu'un qui garde son argent, c'est qu'il a des projets futurs. Sinon, si c'est ton dernier dîner et que derrière tu vas t'envoyer une balle dans la tête.
Après, certains pensent qu'il s'est suicidé hein, depuis.
Oui, mais il s'est levé pour cacher le corps. Parce qu'on a fouillé partout. Voilà.
Non, moi je pense qu'il est suicidé ailleurs dans le monde.
Voilà. Et après, pour défendre Julien Courbet que j'aime bien. J'ai envie de lui dire qu'il a pas de complexe à avoir parce qu'il y a quand même eu pire. Il y a en Écosse quand on a arrêté un mec qui ressemblait pas du tout à Xavier Dupont de Ligonnès et qu'on nous a annoncé en direct sur toutes les télés de France que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté alors qu'il ressemblait autant à Xavier Dupont de Ligonnès que Flora. Voilà, il y a eu quand même beaucoup
bien
pire. Non, tu ressembles pas du tout à Xavier Dupont. c'est une façon. Il y a eu bien pire que Julien Courbet parce que là, toute la France, on y a tous cru. On s'est dit, c'est la police. Donc
oui, mais est-ce
officiel.
Que c'est pas un peu dangereux sur une des plus grandes affaires criminelles du siècle?
Il y a une famille des proches.
Mais il a fait de l'audience.
Oui, mais
de l'audience putassière, il faut le dire. Voilà.
D'accord, mais tu vois, de dire.
Mais c'est une connerie.
On lance des appels comme ça.
C'est une connerie. Ils ont fait des témoignages.
Il y avait Jacques Pradel qui a joué des fantasmes.
Flora, tu vas pas dire.
Moi, je vais gâcher la fête. Je sais même pas qui c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Ça m'intéresse pas.
Tu suis pas l'affaire.
Mais je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Et alors, je suis une grande gueule, comme vous le savez, comme vous. Je peux parler de tout. Je peux débattre de la hauteur de cette table, la hauteur de ce tabouret, la taille de ce micro, je n'ai rien à dire sur Xavier Dupont de Ligonnès parce que on s'en fout. Ah voilà, donc je vous laisse, je gâche la fête.
Allez, reprends maintenant.
Non, mais c'est un vrai fait divers.
Non, mais bien, c'est au-delà du fait divers.
C'est une affaire qui est hallucinante.
Oui, et qui est assez fascinante.
Et je préfère aller au cinéma pour voir des belles histoires.
Le truc le plus putassier, c'est qu'il y a plein de mecs de son entourage qui en profitent et qui vont aller chercher de l'éclairage médiatique sur le dos de 5 morts. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont absolument rien à dire.
Ses enfants, voilà.
Ils n'ont rien à dire, ils ne savent rien, mais ils vont expliquer qu'ils ont un soupçon, qu'ils pensent que... Mais non, il n'y a rien. Aujourd'hui, personne ne sait rien sur Xavier Dupont de Ligonnès.
Mais est-ce que, du point de vue judiciaire, comme ça, traiter en direct ces affaires en lançant des appels à témoins, est-ce que c'est bénéfique pour une enquête ou ça pollue une enquête, justement, Charles?
Pour moi, c'est neutre, honnêtement. Une vraie enquête sérieuse sur une affaire comme ça, elle dépend pas de témoignages.
En même temps, tu peux toucher plus large que les enquêteurs eux-mêmes aussi.
Jacques Pradel à l'époque.
Jacques Pradel.
Mais il avait une émission.
Je pense que ça ne peut pas nuire.
Roswell, c'était vrai. Et la zone 51.
Il avait raison.
En matière pénale, ça ne peut pas nuire. Ça ne peut pas nuire. Moi, je ne vois pas en quoi ça pourrait nuire parce que. S'il y a effectivement des témoignages spontanés qui peuvent se manifester comme ça, non, je ne pense pas que ça nuise. Simplement, il faudrait être fou. Il est peut-être fou, mais.
Oui, mais. Charles, il regarde, est plus en France. Ne serait-ce que quand il y a les appels à témoins qui sont lancés par la police, tu sais, ou la gendarmerie, on le voit dans les affaires. Regarde, ils disent eux-mêmes le tri qu'il faut faire. Le problème qu'ils ont avec les faux appels. Oui, c'est pour ça que je te dis, quand tu te lances en direct sur une des plus grandes affaires criminelles de.
C'est pour ça que je te dis qu'ils ont merdé.
Non, mais là, ils ont merdé.
T'as pas de filtre.
Là, ils ont pas vérifié. Il y a je sais pas qui était chargé de vérifier.
Imagine si c'est vrai, c'est le coup du siècle pour eux. Ils se sont dit, tant pis, on prend le risque parce que le coup est trop gros. Mais moi, il y a une question que je voudrais poser à maître Charles Consigny.
Oui.
Ici présent. C'est que, imaginons que l'ecclésiastique soit vraiment. Eu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce qu'il avait un risque pénal depuis 10 ans de ne pas l'avoir dénoncé à la police?
Ah non.
Non.
Ah non, non, je ne pense pas parce que, non, le secret de la confession, justement, sur lequel.
Même quand il y a 5 meurtres.
Certains députés veulent revenir. Ah ben non. Non, il faut accepter. Non, mais tu sais, il y a des cas de conscience comme ça. Par exemple, moi, il y a beaucoup d'avocats qui m'ont déjà raconté leur cas de conscience quand. Quelqu'un venait leur confier des faits parfois criminels. Alors quand c'était des faits passés, bon, Hervé Thémy me le racontait d'ailleurs à une époque. Il est mort il y a quelques années. Il racontait qu'un jour, quelqu'un était venu le consulter. Il avait avisé qu'il allait buter quelqu'un d'autre dans quelques jours plus tard. Et donc évidemment, Hervé Thémy était très anxieux parce qu'il se demandait ce qu'il devait faire. Finalement, je crois qu'il en a parlé au bâtonnier. Il a laissé le bâtonnier se démerder avec ça. Donc, c'est évidemment des cas de conscience très importants. Le prêtre en question, si ça avait été un vrai prêtre, pouvait par exemple inciter son confessé à se dénoncer. Mais non, pour moi, il n'y a pas de risque.
On a Rod qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Rod.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue. Vous avez vu l'émission? Vous êtes fasciné aussi par l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès?
Alors, je suis fasciné. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis fasciné, mais après, comme tout le monde, je pense que oui, on est hyper intéressé, c'est hyper intriguant. J'ai lu plusieurs magazines sur l'affaire. Dès qu'il y a des petites updates, on écoute, on regarde, etc. Après, voilà, je ne sais pas jusqu'à dire non plus que je suis fasciné par ça.
Mais
vous avez vu l'émission en question?
Ouais, j'ai regardé le replay. Alors après, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre quand il parlait. On sentait tout de suite que peut-être il y avait une gêne, que tout le monde s'était un petit peu rendu compte.
Je trouvais bon, moi,
je sais pas. Moi, j'ai pas été. Je sais pas. J'ai senti un petit truc bizarre, un peu une gêne sur le replay que j'ai vu. Et voilà. Ouais. Après, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que du coup, Julien Courbet et tout le monde, toute l'émission, dès le lendemain, ils ont dit bon bah écoutez, on s'est fait
trouver.
Ils ont pas du tout cherché à noyer le poisson. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver vraiment à tout le monde. On le voit dans plusieurs rédactions. C'est arrivé encore chez Apolline hier ou avant-hier. Elle a invité soi-disant un supporter du PSG.
Un supporter du PSG qui est un militant proche de LFI et qui apparemment a des maillots de l'OM.
Qui a dit qu'il avait subi des violences policières. Bon, en tant que militant LFI, on peut tout de suite en douter. Ouais, je pense que l'important quand ça arrive, c'est de le dire. Après,
on a le droit de se tromper.
Il n'est pas floué. Tout à fait. Franchement, ils l'ont dit très très vite, ils l'ont avoué avec un petit peu d'humour aussi. Donc,
mais c'est drôle quand même. Ça fait deux fois que sur cette affaire, il y a tromperie. Il y avait effectivement donc le type qu'on avait arrêté en Écosse et on pensait que c'était Xavier Dupont de Ligonnès. Il avait fait la une. Et puis il y a cette histoire. Donc c'est ça qui est assez sur le même fait divers, intrigant avec un mystère entier. Il y a deux fois où tout le monde se fait avoir.
Il va être facile à identifier le mec parce qu'il appelait pas en masqué. Ils ont son téléphone. À moins que ce soit, je sais pas, normalement, il devrait être assez facile à identifier.
Mais, Mourad, et savoir tu vas être déçu quand tu vas apprendre qu'il s'est suicidé.
Mais c'est tout à fait possible, bien sûr.
Et dans le massif des morts. Non, son corps, tu le retrouveras jamais parce qu'il est dans
un massif. Mais attendez, l'histoire du forum.
Oui, toi, tu fais partie des gens.
C'était faux aussi.
Le forum.
Mais oui, non. C'est faux.
Merci Rod d'avoir été dans les grandes gueules.
La personne qui est sur ce forum, c'est pas Xavier Dupont de Ligonnès.
Merci à vous.
Ah, je suis ça, moi, je peux vous dire.
Est-ce que vous pensez que M6 a dérapé, s'est trompé? Est-ce que c'est la honte? On va regarder, vous dites oui à 77%. On se retrouve demain. Demain, Bruno Poncet, le cheminot, sera là, tout comme Antoine Dierce, le consultant juridique, l'avocate Sandrine Pégan sera des nôtres. On sera avec le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles aussi, Tugdual Denis, qui revient avec un livre où il a passé un peu en revue la droite et l'état de la droite française aujourd'hui.
Très perso aussi. Hein.
Voilà.
C'est étonnant comme thème pour un homme de gauche.
Tugdual Denis.
Rendez-vous
plus
demain.
À gauche que Glucksmann.
Demain, entre 9h et midi, ouais, vous avez raté les GG. N'oubliez pas les podcasts à votre disposition, bien sûr, sur l'appli RMC, notre site internet rmc.fr. Bonjour Estelle Denis.
Bonjour Estelle. Salut Alain, salut les GG. Des sujets très différents aujourd'hui. Dans Estelle Denis, tout d'abord, on va parler du ras-le-bol de Karine Le Marchand qui qualifie les casseurs de cassos. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que les casseurs sont des cassos? Bah écoutez, on en parle dans un instant avec vous dans Estelle Midi. On parlera également d'un très très grand retour. Il y a eu celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il y a celui également de David et Jonathan, du occulte des années 80. Est-ce que vous trouvez ça génial ou totalement ringard?
Moi, j'aimerais bien, tu sais, un autre duo de ces années-là.
Oui.
Elsa et Glenn Medeiros.
Oh là là! Bah, bien sûr, je me souviens.
Voilà.
Ouais. Oh là, j'ai écouté ça.
C'est quoi leur chanson?
Alors attends, vas-y. Chantait à moitié en anglais et en français. Lui chantait un peu en anglais.
I love you.
Voilà.
Bien, non,
bref, une belle chanson.
Bienvenue aux années 80.
On n'avait pas tout à fait le. On n'a plus les paroles.
Bon.
À 13h30, on se demandera si vous seriez prêt à renoncer à des jours de vacances pour gagner plus. Voilà, monétiser vos jours de congé. Il y a plein de Français qui ne peuvent pas poser tous leurs jours de congé. Donc en fait, ce qui serait bien, c'est de les payer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette idée? Bah écoutez, vous nous dites tout au 32-16. Et puis, en 2030, selon l'INSEE, il y aura 43% des Français qui seront célibataires. Voilà, c'est le règne des solo. Mais alors, vie quotidienne, voyage sorti, est-ce qu'être célibataire, c'est l'enfer ou le paradis? Est-ce que finalement, il vaut mieux être célib que en couple?
Là, autour de la table,
attends, c'est quoi le chiffre?
43% en
2030. Il n'y a que des gens en couple parce qu'il n'y a que des beaux gosses.
En 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Dans 4 ans.
Olivier dit autour de la table, il n'y a que des gens en couple.
C'est un vrai sujet politique.
Exactement. Et c'est un vrai sujet pour le logement.
Bah,
aussi,
bien sûr. Oui.
Et le tu préfères?
Le tu préfères.
Le tu préfères.
Tu préfères long ou court?
Quoi donc? Café. Court.
Long.
Court.
Long.
Long, bien sûr.
Américain.
Court. Long,
bien sûr. Parce qu'il y en a plus. Mais avec du ristretto, faut pas avoir de problème.
Oui, mais long, il a pas de goût, c'est de l'eau.
Non.
Avec du lait d'avoine.
Moi, j'adore le café jus de chaussette américain.
Moi aussi.
Ah ouais.
Le Starbucks très lourd avec beaucoup de
lait.
C'est quand que tu fais un petit préfère sur le lait de vache ou le lait d'avoine? Parce que moi, c'est lait d'avoine uniquement.
Oui, ça m'étonne pas.
Et je veux que ce sujet arrive sur la table d'Estelle Midi.
Allez, bonne émission avec Estelle au 32-16.
J'aurais pas cru.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.